France Inter.
Merci Pierre. Le prochain flash dans une heure à 17h sur France Inter.
La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Jean-Pierre Winter.
Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vincent Van Gogh. Je vous dirai ce qu'il m'a appris des liens complexes entre le génie et la mélancolie. Avez-vous remarqué que nous parlons une langue que chacun d'entre nous ne cesse d'inventer ? Chacun fabrique sa langue de rêve et nous nous la masquons à nous-mêmes avec des images qui nous embarrent l'accès. Pourtant, nous avons régulièrement la preuve que lorsqu'on dit ou montre quelque chose à quelqu'un, ce qu'il en perçoit n'a généralement pas grand-chose à voir avec l'intention qu'on y avait mise. Ainsi, s'il advient que dans un rêve, nous voyons un chat toute griffe dehors et que nous en faisons part à un ami persan, il se peut qu'il entende, lui, que vous lui parlez du chat d'Iran. Je parle des images du rêve ou de celles produites par l'art qui sont pour le psychanalyste des fenêtres ouvertes sur l'inconscient. L'art cherche à cerner un réel au-delà des apparences qui échappe à celui qui a peint ou sculpté ou écrit. Pour explorer cette question, j'aurai donc pour commencer recours à l'histoire et au tableau de Vincent Van Gogh. Les psychanalystes doivent beaucoup aux artistes qui ont perçu, sans l'avoir théorisé ni systématisé, ce qui se trame dans l'inconscient. Ainsi, à propos du génie, nous nous demanderons quel rapport toute création onirique ou artistique entretient avec cette souffrance, cette maladie qu'on peut appeler la maladie de la lucidité. Après avoir partagé avec vous ces réflexions sur la douleur d'exister, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute et dans l'application Radio France.
L'inconscient, avec Jean-Pierre Winter, sur France Inter.
Déjà, Aristote, dit-on, se demandait pour quelles raisons tous ceux qui ont été des hommes d'exception, philosophes, hommes d'État, poètes ou artistes, sont-ils manifestement mélancoliques ? Ces délires mélancoliques désignent un état de vide, un état où le sujet se sent déchet. À l'appui de sa question, Aristote mettait déjà en scène des personnages tantôt imaginés, comme Héraclès, ou, sur le même plan, des personnages bien réels tels Socrate. Il ajoute une citation de Homère à propos de Bellérophon, dont il est dit qu'il recherchait les lieux secrets sous la forme suivante. Quand il fut en proie à la haine de tous les dieux, alors, à travers la plaine aléienne, seul il errait, mangeant son cœur, évitant le pas des humains. N'est-ce pas une magnifique définition de la mélancolie ? Il n'en est pas de plus adapté à propos de Van Gogh. Lui aussi errait à travers la plaine arlésienne et non aléienne, mangeant son cœur et ruinant celui de son frère, évitant le pas des humains, mais rencontrant finalement celui des psychiatres. Était-il en proie à la haine de tous les dieux, comme Job sur son tas de fumier se demandant « Suis-je en proie à la haine de Dieu ?» Vaste question que ne résoudra pas la seule évocation devenue rituelle de son père, ce pasteur nommé Théo, comme le frère de Vincent. Cette confusion des noms et des personnes, justement, est une des voies d'accès possibles pour qui veut entendre quelque chose au drame de Van Gogh et pour qui est tenté d'en dénouer la trame. Quelle famille ! Et quelle absence d'imagination ! Quel enfermement sur un nombre plus que limité de noms qui se répètent avec insistance et qui annulent totalement tout effet de génération. Par exemple, le père de Vincent, Théo, c'est le diminutif de Théodorus, avait un frère aîné qui s'appelait lui-même Vincent, avec qui il aura des rapports d'autant plus étroits qu'il épousera la sœur de sa femme. Son propre père s'appelait Vincent et était pasteur, vocation dont le peintre, Vincent Van Gogh, a longtemps pensé qu'il s'agirait aussi de sa vocation. Mais pour perturber encore un peu plus l'entendement de leurs enfants, Théodorus a épousé Anna Cornelia. Ils prénommèrent leur première fille Anna Cornelia et la seconde Elisabeth, du nom de la jeune sœur du pasteur Théodorus. Mais il y a mieux. Le 30 mars 1852 naît mort le premier enfant du couple Van Gogh, qu'ils appellent Vincent Wilhelm. Un an après, jour pour jour, soit le 30 mars 1853, naît leur second enfant, à qui ils donneront exactement les mêmes prénoms. Quand Théo, 6 mois avant le suicide de Vincent, aura un enfant, il l'appellera également Vincent Wilhelm. Dans ces conditions, ces mots de Vincent à son frère Théo dans leur correspondance prennent tout leur sens. Que dit Vincent ? Savoir que je devrais m'effacer de plus en plus devant les autres, s'il en était ainsi et pas autrement, je serais en proie à la tristesse et victime du désespoir. C'est cette révolte et cette soumission de Vincent contre l'effacement qui s'exprime de façon si tourmentée dans sa peinture. Vincent décide d'affronter l'impossible tâche qui est celle de nombreux peintres, effacer l'effacement d'où s'origine la nécessité pour lui de peindre. La question de Vincent n'est pas la question d'Hamlet. Ce n'est pas être ou ne pas être. La question de Vincent, telle qu'il la met en acte dans son geste d'artiste, c'est comment être en n'étant pas. Ce dont témoigne la longue litanie d'autoportraits, dont les regards, qui sont successivement sombres ou hallucinés, demandent à Vincent, comme il le demandait lui-même à Théo, y a-t-il rien ou quelque chose ? Vincent est au cœur de ce qui tourmente chacun d'entre nous. Mais lorsque nous vivons en faisant semblant de ne rien savoir, lui ne recule pas et est bien décidé à en payer le prix de sa vie ou de sa raison. Il ne se détourne pas du fait qu'il pourrait ne pas exister. C'est cette énigme, ce mystère qui plonge au cœur de l'humain dans l'homme, qu'il va tenter de fixer sur la toile. Cette articulation impensable pour lui, ailleurs que dans la peinture, entre le fait incontestable d'exister et la certitude non moins incontestable qu'il se pourrait que je pourrais ne pas exister. Comme ce frère aîné, Vincent, devant la tombe duquel Vincent Van Gogh passait tous les jours étant enfant. Avec cette question-là, Van Gogh nous conduit à penser la question de l'interdit de la représentation édictée par les 10 commandements, peut-être pour souligner qu'il est impossible de représenter certaines choses. Comment représenter le fait qu'on est EST ou n'est NAIT en n'étant pas ? C'est en ce lieu que se rencontreront le fait et la certitude qu'on verra s'illustrer sous le pinceau de Vincent, sous la forme de symboles ambivalents, la mort et la procréation. Les tableaux de Vincent, les travaux des champs, les semailles et les moissons, les champs de blé l'été au-dessus desquels volent de sombres corbeaux, des enfants au visage terrifiant, des paysannes, mères toujours penchées douloureusement vers le sol, etc., interrogent constamment la question de l'être en n'étant pas. Et Antonin Artaud, le grand poète, qui avait compris des choses fondamentales sur Van Gogh, disait « J'entends les ailes de corbeaux frapper des coups de cymbales fortes au-dessus d'une terre dont il semble que Van Gogh ne pourra plus contenir le flot, puis la mort. » Il écrit ça dans un texte magnifique intitulé « Van Gogh ou le suicidé de la société ». Cette efflorescence des symboles, Van Gogh croyait lui-même pouvoir les reconnaître chez des peintres plus académiques de l'époque, comme Millet ou Léon l'Ermite. Il est vain et naïvement psychologisant de se demander à qui ça s'adresse. Mais ce qui me paraît le plus urgent est de savoir comment les symboles s'articulent au message inconscient. Sa vie est dominée par la mélancolie. Par exemple, il écrit à Théo « N'oublie pas que je suis né pour être mélancolique. » Déjà, Aristote, donc, faisait remarquer que l'être mélancolique ne l'est pas parce qu'il devient mélancolique au fur et à mesure de son existence, mais parce qu'il l'est par nature. En ce sens, on pourrait dire de Vincent, aujourd'hui, qu'il était peintre parce qu'il réagissait contre cette nature. Dire cela, ça nous dispenserait de commettre la même erreur funeste que celle du docteur Gachet, que dénonça Artaud en son temps. L'erreur, selon Artaud, était d'inciter Van Gogh à peindre pour se soigner, ce qui, pour Artaud, est le comble de l'infamie parce que cela réduit son travail à une thérapie. Ce qui signifierait que l'émergence de l'œuvre est à rechercher dans le pathos.
Je me souviens quand Vincent a emménagé. Les gens lui demandaient s'il était un parent des Gachets. Peut-être qu'ils se ressemblaient en apparence.
Ah, c'est incroyable.
Les mêmes cheveux roux.
Vous aimez ?
Oui. La même tristesse au fond des yeux.
Je n'ai jamais rien vu de tel.
Mais alors, contre quoi Vincent réagit-il ? Contre un univers où tout se vaut. Comme tous les mélancoliques, il réagit avec sa lucidité aveuglante. Mais sur quoi s'exerce-t-elle ? Ordinairement, la lucidité aveuglante explique bien pourquoi les sujets que nous sommes préfèrent généralement fermer les yeux. La lucidité de Vincent porte sur la dimension de l'homme comme reste, sur sa dimension résiduelle, sur son inutilité dans le grand œuvre de la création, que souligne d'autant plus dans le cas de Van Gogh la perte de ses illusions religieuses. C'est toujours un drame dans la vie d'un être humain, surtout quand on les perd enfants. Plus Van Gogh est lucide, c'est-à-dire plus il se guérit de ses illusions, plus il réagit par la mélancolie. Et ce, d'autant plus que Théo, son frère, est un interlocuteur énamouré, mais surtout sourd. Vincent témoigne de cette lumière qui est aussi aveuglante et scintillante que le jaune de ses soleils, de ses blés ou de ses tournesols. Il dit à son frère « Sentir que je suis devenu un boulet à tes yeux, comme un intrus ou un oisif, de sorte qu'il vaut mieux que je n'existe pas. » Ou encore, dit-il, « Involontairement, je suis devenu, plus ou moins dans la famille, un personnage impossible et suspect, quoi qu'il en soit. » En quoi donc pourrais-je en aucune manière être utile à qui que ce soit ? Cette conviction de notre inutilité que chacun s'emploie à masquer en jouant les utilités est ce que Vincent ne parvient pas à oublier. Et s'il n'y parvient pas, c'est peut-être que malgré sa quête incessante, nul autre ne l'a jamais aimé ni ne l'a jamais entendu. Il y a peut-être une exception pour Gauguin, mais c'est très problématique tant leur relation était nourrie d'ambivalence et de violence. Van Gogh crève littéralement de n'être pas entendu. Rien de ce qu'il dit ou fait ne prend sens de son vivant pour un tiers. Alors cette voix pour faire reconnaître son désir étant fermée, la famille étant traditionnellement occupée à vendre des tableaux, il fait le pari insensé qu'avec la peinture, il pourra faire entendre ce qu'il ne peut pas faire passer avec des mots. Mais ce qu'il veut faire avec ses couleurs, c'est de la musique. Il veut faire une peinture qu'on puisse entendre. C'est le contraire de la fin du don des 10 commandements quand il est dit « Le peuple voit les voix ». Lui, il veut qu'on entende ce qu'il peint. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, la musique est l'idéal de Vincent Van Gogh. L'invoquant, c'est-à-dire la parole, est son objet. C'est l'objet manquant qui cause son désir. Ne dit-il pas à sa sœur Wilhelmina en avril 1888 ? Mais en jouant de toutes ses couleurs, on en vient à créer le calme et l'harmonie. Et il se produit quelque chose d'analogue à ce qui se passe pour la musique de Wagner, qui, même exécutée par un grand orchestre, n'en est pas moins intime pour cela. Chaque couleur est un instrument. La palette est un orchestre, dont le bleu céleste est un violon, l'orangé un cuivre, le rose un hautbois, le vermillon une clarinette, le jaune très vif la grosse caisse, et lui, le chef d'orchestre, dans chaque geste, anticipe la musique à venir. Pourquoi, dit Vincent Van Gogh, conçois-je mieux le musicien ? Pourquoi vois-je mieux la raison d'être de ces abstractions ? Il veut vivre musicalement dès lors qu'il ne voit plus dans la peinture, dit-il, qu'un moyen de me tirer de la vie. Mais vouloir vivre musicalement et être condamné à peindre, conçoit-on quelle douleur ça peut être ? Quelle épreuve ça doit être ? Alors voici une hypothèse. La douleur est si vive qu'elle le pousse à se couper l'oreille.
France Inter, l'inconscient. Cette semaine, avec Jean-Pierre Winter.
Artaud a essayé de banaliser cet épisode de l'oreille coupée, mais n'en a pas perçu la dimension symbolique. On est même allé jusqu'à évoquer une identification au taureau vaincu des arènes d'Arles, dont on coupe rituellement l'oreille à la fin des combats. Mais s'est-on avisé une seconde de ce que cet acte a de cohérent avec l'ensemble de ses préoccupations esthétiques ? Il écrit : la peinture, comme elle est maintenant, promet de devenir plus subtile, plus musique et moins sculpture. Enfin, elle promet la couleur. Van Gogh n'étale pas la couleur. Il tape sur la toile à coups irréguliers et laisse telle qu'elle. Il en joue comme un musicien d'un piano, car, dit-il, la couleur est ce qui ne vient jamais deux fois. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il fallait envisager l'autoportrait à l'oreille coupée non pas comme une conséquence de l'acte sacrificiel auquel il a consenti ou qu'il a lui-même fait, mais comme sa cause. Il se coupe l'oreille pour peindre l'autoportrait, comme Freud, pourrait-on dire, rêvait pour écrire l'interprétation du rêve. Le tableau étant en quelque sorte déjà là, il lui vient comme dans un rêve, dans un moment où, dit-il, il ne se sent plus. Mais si on regarde attentivement un des autoportraits en question, nous retrouvons cette oreille dont il vient de découper le lobe, dans sa bouche, qui pour la première fois dans un de ses autoportraits tient une pipe ayant justement la forme d'une oreille. Il s'agit d'une pipe dont le contour extérieur, quand on fait faire au tableau un quart de tour vers la droite, a la forme d'une oreille. Une pipe posée sur une chaise où il n'y a personne. Une chaise vide, peinte juste avant le sacrifice. On a là quelque chose d'ahurissant, qui est la réussite de peindre quelqu'un qui existe en n'existant pas et dont la cause du désir est posée au lieu même de son absence. Mais surtout, les toiles qui suivent cet épisode ont un trait modifié. Il abandonne les lignes droites au profit de volutes qui servent souvent de fond, comme dans le portrait de Saint-Rémy en 1890. Partout, que ce soit dans les paysages accidentés, dans le tableau Les Cyprès ou dans La Nuit étoilée, on peut reconnaître la forme de l'appendice auriculaire jusqu'au moment où il semble franchement le dessiner, comme dans Le Lieur de Gerbe, d'après Millet. Il cherche à réintroduire symboliquement ce qu'il a voulu signifier par un acte réel, à savoir la surdité de l'autre. Cause d'une disjonction radicale et insupportable entre le musical et le pictural. À partir de cette affaire de disjonction entre l'ouïe et la vue, Freud va essayer de poser une des sources de nos névroses. Le fait que ce que nous entendons ne coïncide pas le plus souvent, étant enfant, avec ce que nous voyons, nous oblige à privilégier l'un ou l'autre. Van Gogh fait avec le regard pour vivre. Mais il est affecté par sa lucidité et ramené à la cause de son désir qui était pour lui l'objet manquant et irreprésentable. C'est peut-être ce qui va le pousser vers la mort. D'ailleurs, si la pipe se substitue à l'oreille, ce n'est pas contingent, parce que Vincent n'ignorait pas le sens de l'expression « casser sa pipe ». Ce n'est pas un artifice de psychanalyste que de dire cela, puisque Vincent écrit à Théo « Je me suis dit qu'il était regrettable que je ne sois pas tombé malade, que je n'ai pas réussi à casser ma pipe dans le borinage au lieu de commencer à peindre ». L'oreille coupée préfigure donc la mort telle qu'il l'avait imaginée. Dès lors, sa production devient d'autant plus peinture qu'elle n'a plus pour objet de s'affronter aux apparences. Elle rivalise avec un objet immatériel, innommable, invisible, qui le situe en un lieu complètement inaccessible, la musique, et qui lui donne un sentiment de ne pas se retrouver dans la vraie vie. En ce sens, dit-il, qu'il vaudrait mieux travailler dans la chair même que dans la couleur ou le plâtre. Mais un acte qui, réalisant son fantasme, lui fait apparaître sa création dans sa dimension, pour reprendre une expression de Lacan, d'une succession de petits dépôts sales juxtaposés. À partir de là, il ne lui reste qu'à retourner contre lui le geste par lequel il frappe la toile et le pinceau se mue en revolver. Cette fois, le geste d'être créateur devient mortel, faute d'être suspendu. Ce qu'il aperçoit alors dans ce qu'il peint, ce qu'il voit toujours mieux, est la dimension d'impossible de son projet esthétique. Mais parce qu'il confond impossible et impuissance, le sentiment de son échec deviendra de plus en plus lancinant. Aurait-il éprouvé cette certitude de l'échec s'il avait pu se soutenir du nom de son père qu'il va s'employer à ne pas écrire pendant les 8 années au cours desquelles il peint? Il signait Vincent. Et peut-être cela donne-t-il une des raisons fondamentales pour lesquelles c'est en France qu'il est venu peindre. Car la langue française est le pays qu'il est venu habiter, puisque c'est la langue qui lui semblait a priori interdire l'écriture de son nom. C'est ce qu'il dit à Théo en 1888. Mais quoique pour cette fois, cela ne fasse absolument rien dans la suite, il faudra insérer mon nom dans le catalogue tel que je le signe sur les toiles, c'est-à-dire Vincent et non pas Van Gogh, pour l'excellente raison que ce nom ne saurait se prononcer ici. Pourquoi ? Hormis le fait que cela renvoie au nom imprononçable. Ce nom de son père, qui est devenu imprononçable une fois arrivé en France, sera donc effacé parce qu'il résonne sans équivoque avec la juxtaposition de petits dépôts sales en quoi consiste la peinture. Ça ne pouvait dès lors que se matérialiser, se sublimer en grande œuvre. Et si les lettres ne pouvaient plus former le nom, c'est aux couleurs que cette fonction était désormais assignée. Raison pour laquelle, s'il est vrai, comme le dit Freud, que le fou est celui qui prend les mots pour des choses, la géniale folie de Vincent Van Gogh fut de tenter de prendre les sons pour des couleurs. Il y a donc un au-delà de l'image. C'est cet au-delà qui nous intéresse, car c'est lui qui fait la différence entre un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art et une peinture du dimanche. Une peinture du dimanche ne nous fait pas miroiter une seconde qu'il y a un au-delà de ce qu'elle représente. Elle montre platement ce qu'elle donne à voir. Un chef-d'œuvre, lui, laisse entendre qu'il ne suffit pas de le regarder pour comprendre pourquoi il nous satisfait ou nous intrigue. Parlant de ce genre particulier de peinture que sont les icônes, par exemple, Lacan dit « Elles ont manifestement pour effet de nous tenir sous leur regard. » On pourrait s'arrêter là, mais ce ne serait pas saisir le ressort de ce qui fait que le peintre est engagé à faire cette icône et de ce à quoi elle sert en nous étant présentée. Il y a un regard là-dedans, mais il faut aller un peu plus loin. Ce qui fait la valeur de l'icône, c'est que le Dieu qu'elle représente, lui aussi, la regarde. Par exemple, l'icône représente Jésus. Et Jésus est donc censé regarder l'icône. C'est intéressant parce qu'elle est censée plaire aux fidèles dans l'Église, mais elle est aussi censée plaire à Dieu lui-même. Il faut la construire de telle manière qu'on se convainc que Dieu est content de la manière dont il est représenté. L'artiste opère donc à ce niveau-là. Il ne s'agit pas seulement de faire une œuvre qui le satisfait, lui, pleinement, mais de créer une œuvre avec le souci d'éveiller le désir d'un Dieu. Que faire pour éveiller le désir d'un Dieu, même quand on pense que le ciel est vide? Car à notre époque, éveiller le désir d'un Dieu ne fait plus vraiment partie de nos préoccupations. Mais ce n'est pas si simple. Pas sûr qu'on y arrive par ce biais-là. On a donc inventé l'écriture. Quel rapport entretient-elle avec les images? Peut-on continuer à affirmer qu'un écrivain, parce que c'est aussi un créateur, s'identifie au créateur? Un écrivain se prend-il pour Dieu? Il n'est pas impossible que dans la psyché de tel ou tel écrivain existe une telle identification imaginaire. Mais dans l'acte d'écrire, même cet écrivain qui se prendrait pour Dieu s'identifierait à son insu, non pas à Dieu, mais à l'absence de Dieu. Edmond Jabès, un grand poète, auteur du livre des questions, disait « Dieu n'existe pas, mais sa parole existe ». Cette formulation ne peut pas laisser un psychanalyste indifférent, parce qu'il écoute jour après jour des personnes pour qui Dieu existe et d'autres pour lesquelles il n'existe pas. D'autant plus que pour eux, c'est d'abord leur parole qui n'existe pas encore. Dans tous les cas, ils se battent dans l'analyse pour la faire exister. Edmond Jabès ouvre là un paradoxe, celui d'une parole qui existerait sans auteur pour la soutenir. Ainsi Jabès écrit « Né le 16 avril au Caire, mon père, par inadvertance, me déclare né le 14 du même mois. Ainsi, la première manifestation de mon existence fut celle d'une absence qui portait mon nom. » Un premier vide, donc, vient l'inscrire dans la communauté des humains. Jabès, comme Van Gogh, nous rend sensibles à une mort qui n'est pas le terme de la vie, mais à une vraie mort d'où procède et qui précède la vie. Parfois, il arrive que des enfants interrogent « Où étais-je quand j'étais mort ?» C'est-à-dire « Où étais-je avant d'être conçu ?» Si Dieu, écrit en caractère latin, donc avec un V en lieu et place de U, est l'anagramme de vide, comme le remarque Edmond Jabès, on est bien au cœur de la question d'une origine née du néant. Vide originaire devenu abîme pour certains, tenté de mettre un terme à la douleur d'exister. Retour au néant avec le secret espoir, peut-être, de renaître. Néant angoissant que nous avons tenté de cerner en suivant le parcours du peintre Vincent Van Gogh jusqu'à son dernier souffle. Nous l'avons accompagné dans ce cheminement qui va de sa naissance à son suicide grâce à cette extraordinaire correspondance qu'il a entretenue avec son frère Théo, dont le prénom en grec signifie justement « Dieu ». Précieuse correspondance, car elle est quasiment équivalente au récit d'une analyse qui nous aurait donné les clés pour mieux accéder à une œuvre solaire, lumineuse, qui est aussi une lente évolution vers les soleils noirs de la mélancolie. Restez à l'écoute. Dans un instant, je répondrai à toutes vos questions, mais tout de suite, voici The Kills 103 sur France Inter. France Inter dans l'inconscient. C'est à vous maintenant, je vous écoute.
Bonjour et merci pour cette analyse de la peinture de Vincent Van Gogh qui est vraiment passionnante. Je me pose juste une question par rapport à la symbolique de son oreille coupée. Parce que Winnicott nous dit que l'enfant qui souffre va développer un canal sensoriel particulier, plus exacerbé que chez les autres. Et donc chez Vincent Van Gogh, bien sûr, on va retrouver ce canal visuel. Donc, est-ce que dans cette oreille coupée, on ne pourrait pas voir sa colère de ne pas pouvoir utiliser complètement ce canal auditif qui serait un peu atrophié et donc il ne pourrait pas mettre, justement, comme vous le disiez, sa peinture comme de la musique. Merci pour votre réponse.
Bonjour Rachel et merci pour votre question. Je souscris tout à fait à ce que dit Winnicott et en effet, un sens atrophié peut être compensé par un sens qui devient au contraire particulièrement sensible. Dans le cas de Van Gogh, je crois en effet que sa sensibilité à la musique, sa recherche de la musique dans ce qu'il voit et dans ce qu'il projette sur la toile, est un élément de surcompensation. Dire de quoi il s'agit dans son enfance est extrêmement difficile, puisque nous n'en avons pas le témoignage. Mais de fait, on peut suggérer que votre hypothèse, ou en tout cas celle de Winnicott que vous rapportez, est particulièrement pertinente.
Bonjour, j'ai une question de la capacité de motivation, de la mélancolie. Est-ce que finalement on pourrait dire que quand quelqu'un est très très triste, ça lui permet d'avoir beaucoup d'énergie pour sortir de cette tristesse, parce que évidemment l'être humain veut vivre en bonheur, du coup il peut mobiliser beaucoup d'énergie pour se le permettre. Est-ce que donc finalement ce dispositif d'énergie qu'il a là lui permet de réaliser des trucs fous? Voilà, merci beaucoup.
Bonjour Georges, et merci pour votre question. Je pense qu'il ne faut pas confondre la tristesse et la mélancolie. La tristesse est un état qui est éventuellement provoqué par une perte, mais la perte bien concrète de quelque chose ou de quelqu'un dont nous savons que nous l'avons perdu et dont nous regrettons de ne plus le voir ou de ne pas l'avoir. La mélancolie, c'est beaucoup plus profond. C'est la perte de quelque chose dont on ignore que c'est après cela qu'on court. C'est quelque chose que l'on ignore avoir perdu, mais qui pourtant se comporte comme si, ou en tout cas nous pousse à nous comporter, comme si nous étions en deuil, sans savoir ni de qui, ni de quoi. Alors effectivement, se sentir mélancolique, se sentir donc dans une sorte de deuil qui n'est pas vraiment un deuil, puisque l'objet perdu, on ignore ce qu'il est, peut nous amener à lutter contre la mélancolie, peut nous amener à nous révolter contre cette mélancolie en nous, et par là, à partir de là, nous sommes capables de cette folie dont vous parlez, et que vous avez bien raison de nommer ainsi.
Bonjour, je m'appelle Nathalie. Merci Monsieur Winter pour votre émission sur le peintre Vincent Van Gogh. Je me pose là où les questions suivantes. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui motivait la création artistique, parce qu'en fait, en écoutant des artistes ou en lisant des interviews, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui se passe malgré eux. Ils ne se disent pas « tiens, je vais peindre, tiens, je vais écrire un morceau de musique », ça leur vient et c'est irrépressible comme besoin. Alors, moi, je me disais que, en fait, il y a de la souffrance en ces personnes-là, comme il y en a en beaucoup de personnes, mais eux arrivent à aller assez profond pour la toucher, ou alors ils n'ont pas de barrière entre cette souffrance intérieure et leur conscient, ce qui fait qu'ils sont obligés de l'exprimer d'une façon ou d'une autre, et ça se passe par le biais d'un art. Et la deuxième chose à laquelle je pense souvent, en particulier pour les musiciens d'ailleurs, c'est qu'ils ont accès à une sorte d'inconscient collectif. Enfin, c'est peut-être pas le bon mot, mais ils ont accès à une base collective qui fait que certains d'entre eux, et on en connaît tous des exemples, ont écrit des morceaux qui touchent tout le monde et qui durent pendant des décennies, qui sont toujours dans les têtes, qui sont toujours appréciés. Ces gens-là restent célèbres après leur mort grâce à ce qu'ils ont créé. Et je pense qu'ils ont aussi un petit clapet au-dessus de la tête qui reste ouvert et qui les laisse être inspirés par quelque chose qui est de l'ordre de l'universel et qu'ils arrivent à retranscrire d'une façon humaine qui peut être perçue par les autres, donc que ce soit par des notes de musique ou par de la peinture, entre autres. Je voulais savoir ce que vous pensez de ces théories. Merci.
Bonjour Nathalie et merci pour vos questions. Vous avez raison sur un point. Un artiste, quel qu'il soit, musicien, peintre, poète ou autre, est traversé par ce que j'appellerais l'air du temps. Mais il ne le sait pas, ou plus exactement, il ne sait pas, au moment où il crée, qu'il est en train d'être, en quelque sorte, le porte-parole, le porte-plume ou le porte-voix de ce qui se trame dans la société. Je ne dirais pas qu'il y a un inconscient collectif, mais l'air du temps est une expression qui rend compte du fait que l'artiste est probablement la personne qui, j'aime beaucoup votre expression, le petit clapet au-dessus de la tête, l'artiste est quelqu'un qui est ouvert à ce qui se dit à l'insu de chacun d'entre nous et qui nous le transmet à sa façon. Mais il est devant cela, dans la même innocence, une fois que la création est faite, il est devant cela dans la même innocence ou dans la même interrogation que chacun d'entre nous. Proust disait, par exemple, que quand il lisait ce qu'il avait écrit, il était un lecteur banal. Il n'était pas l'auteur de ce qu'il avait écrit. Il était quelqu'un qui découvrait, en le lisant, que oui, il avait produit ça. Eh bien, un artiste, dans le moment où il crée, au moment même où il crée, est en quelque sorte celui... C'est une passoire. C'est quelqu'un, c'est pour ça que votre idée de clapet est séduisante, c'est une passoire qui laisse passer des choses qui jusque-là n'avaient été jamais entendues, jamais vues, jamais écoutées. Nous poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions. Après Camélia Jordana, je reste calme sur France Inter.
Sous le charme, à l'intérieur comme au bord des larmes, tu sais que je me blâme dedans des flammes. C'est mon drame, c'est ton innocence que je clame.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
je sens mon cœur.
Et nous poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions.
Bonjour Monsieur Winter. La question que je voudrais poser, c'est de savoir si la mélancolie se joue dans les premiers temps de la vie ou si l'on peut devenir mélancolique à partir d'un drame personnel qui se retourne contre soi-même, comme Freud l'explique dans Deuil et mélancolie. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonjour Séverine. Il est très difficile de répondre avec certitude à la question que vous posez. Il est probable, certaines recherches vont dans ce sens, que la mélancolie s'instaure quasiment dès les premières relations du bébé avec son entourage, avec les personnes tutélaires. Peut-être s'agit-il d'un défaut de regard. Le bébé n'est pas suffisamment regardé par celui ou celle qui s'occupe de lui. Toujours est-il que nous n'en savons rien avec certitude. Mais, vous avez raison, il se peut aussi que quelquefois, la mélancolie soit consécutive à un événement traumatique qui a été oublié et qui généralement se présente à nous par le fait que le sujet a été confronté à quelque chose d'une violence inouïe à quoi il n'a pas su répondre et qu'il a préféré refouler. Il n'a pas su répondre, ou il n'a pas pu répondre, ou il n'a pas voulu répondre. Alors s'instaure quelque chose qui est de l'ordre d'un regret éternel, sur quoi, comme disait Apollinaire, l'enfer se fonde.
France Inter, l'inconscient. Cette semaine, avec Jean-Pierre Winter.
Bonjour, je suis Sarah. Je vous remercie, Monsieur Winter, pour votre émission. Je souhaitais vous entendre développer un petit peu autour de la question suivante. Lorsque je suis triste, lorsque la vie est dure, j'ai tendance à aller vers des artistes de type génie mélancolique tels que vous avez décrit Vincent Van Gogh, plutôt que d'écouter une chanson légère ou que de regarder des images un peu rigolotes. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose de cet écho ? Et de ce pourquoi est-ce que je vais aller plutôt vers les artistes géniaux et mélancoliques et sacrés pour m'apaiser. Et en quoi consiste cet écho et ce miroir ? Je vous remercie par avance, merci à tous.
Bonjour Séverine, et merci pour votre question. Disons que la tristesse peut être assimilée à des moments de mélancolie. Mais la tristesse est passagère alors que la mélancolie est relativement continue. Pourquoi sommes-nous portés, dans ces moments de tristesse, à nous tourner vers des chansons plus ou moins tristes, des chansons de Barbara par exemple ? Peut-être parce que ces artistes ont mis des mots sur un état que nous percevons mais que nous ne savons pas nommer. Alors, en mettant des mots sur cette souffrance, d'une certaine manière, ils nous soulagent en partie de la souffrance, en nous faisant entendre, d'ailleurs, dans le même mouvement, que cette tristesse est finalement assez commune, ou en tout cas commune à un certain nombre d'êtres, ce qui nous sort du poids de la solitude que pourraient représenter ces états mélancoliques qu'on appelle transitoirement la tristesse.
Bonjour, j'aurais voulu proposer une réflexion qui est peut-être un peu simpliste. autour du lien entre la mélancolie et le génie. Je me suis demandé très tôt, j'ai 27 ans, et je me suis demandé très tôt si l'humain apprenait, tirait des leçons de la vie en général, uniquement, ou en tout cas principalement par la souffrance, si l'humain ne s'est levé qu'après avoir souffert. Et j'aurais voulu poser la question, est-ce que c'est le génie qui mène obligatoirement à la mélancolie, par intelligence entre guillemets ou lucidité, ou est-ce que c'est la mélancolie et la souffrance qui mènent à l'élévation de l'esprit et peut-être à toucher un peu du génie. Merci beaucoup.
Bonjour Amalia, et merci pour votre question. Il n'est pas nécessaire, pour être génial, de puiser dans ses souffrances, c'est-à-dire dans sa névrose éventuellement, voire dans sa psychose dans certains cas. Ça n'apporte pas grand-chose. La souffrance, c'est la souffrance, c'est pas la création. Il y a des créateurs qui ont eu une enfance, non pas sans histoire, mais au contraire avec une histoire qui n'était pas faite de souffrance. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas connu de traumatismes plus ou moins importants et qu'ils ont essayé de surpasser, de sublimer les dits traumatismes en les transformant en une œuvre poétique, picturale ou musicale. Je crois que, en tout cas je le constate, que la mélancolie est un état dont, souvenez-vous de la citation d'Aristote, le génie et la mélancolie, la question se pose de savoir effectivement si le génie est à la portée de celui qui est mélancolique ou à la portée seulement de celui qui est mélancolique. Je crois que n'importe qui, quelle que soit sa pathologie, disons, si on peut dire que la mélancolie est une pathologie, n'importe qui peut être amené à être un créateur sans que nous puissions dire pourquoi en tant que psychanalyste. Et ceci pour une raison assez importante. La psychanalyse peut rendre compte de ce qui ne fonctionne pas. Nous avons affaire à des gens qui viennent nous voir parce qu'il y a des choses en eux qui ne fonctionnent pas. Ils ne peuvent pas aimer, ou ils ne peuvent pas travailler, ou ils ne peuvent ni aimer ni travailler, par exemple. Mais la psychanalyse n'a rien à dire de ce qui fonctionne. C'est ce en quoi la psychanalyse n'est pas une conception du monde. Elle ne peut pas vous dire « il faut être comme ci » ou « il faut être comme ça » pour devenir créateur. Et donc certainement pas « il faut avoir souffert » ou « il faut être mélancolique ». Merci pour vos questions et merci à Anne-Laure Cochet à la technique, à Juliette L'Orphelin pour le choix de la musique, à Franck Olivard qui récolte vos questions et à Jérôme Boulet à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Laurie Loffert. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast sur toutes les plateformes dans l'application Radio France ou sur notre page internet L'Inconscient sur franceinter.fr et lui laisser des messages par note vocale ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 19 novembre pour mon prochain épisode.